France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Joséphine Reynartz, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Dalia. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semeau, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Nous évoquerons le risque de guerre ouverte entre l'Inde et le Pakistan alors que des frappes ont déjà été menées par l'Inde chez son voisin en réponse à un attentat terroriste sur son sol dont elle attribue la responsabilité à Islamabad. Jusqu'où les deux pays sont-ils prêts à aller dans l'escalade? Nous en discuterons avec nos invités Isabelle Saint-Mézard. Bonjour.
Bonjour.
Et Laurent Gaillet. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
À tous les deux. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes et pour commencer, bien place au retour de terrain. Bonjour Arnaud Vollerin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération en charge de l'Asie. 50 ans après la prise du pouvoir par les Khmers rouges au Cambodge, vous êtes parti à la rencontre des survivants du régime de terreur et d'extermination instauré le 17 avril 1975 et qui durera jusqu'en janvier 1979. On estime que 1,7 million de personnes ont été assassinées durant cette période. Un chiffre vertigineux mais qui serait peut-être en dessous d'une réalité encore entachée de zones d'ombre et de trous noirs, tant le travail de documentation et de mémoire du génocide reste partiel. Si l'on connaît la prison S21 documentée par le cinéaste Riti Pan, lui-même un rescapé, on sait peu de choses des autres centres de détention, de torture et d'exécution disséminés dans tout le pays. Près de Battambang, dans la capitale provinciale de l'ouest du pays, vous croisez Arnaud Vollerin, des Cambodgiens qui ignoraient que se trouvait ici un centre de sécurité, celui de la pagode Hek Phnom. Cette méconnaissance vous a-t-elle surpris ?
Oui, 50 ans. J'allais au Cambodge en me disant que c'était effectivement 50 ans après le massacre, donc la souffrance devait être passée. La douleur même des victimes, des survivants devait être passée. Et je me suis rendu compte en fait que c'était pas du tout le cas, que les pleurs étaient affleuraient dans les témoignages des gens que j'ai rencontrés. Et on se rend compte effectivement d'une totale impunité, de lieux de massacre. Il y a eu quand même, l'issue du régime des Khmer Rouge, il y a eu 20 000 charniers quand même qui ont été mis à jour. Donc c'est quelque chose de colossal. Et on se rend compte qu'il y a plein de lieux où il y a eu parfois des dizaines de milliers de morts qui sont totalement absents en fait, qui n'ont pas été totalement documentés. Et dont on a, même encore aujourd'hui, même encore 50 ans après, aucune idée précise du nombre de victimes, de l'ampleur des massacres. Donc je suis rentré un peu effaré devant cette douleur et devant aujourd'hui encore ce manque de vision précise et claire de l'ampleur du massacre.
Une grande souffrance qui côtoie aussi une ignorance de la part des jeunes générations. Et vous étiez justement sur place en février, donc en amont de la date anniversaire de la prise du pouvoir par les Khmers Rouges, le 17 avril. Comment est-ce que vous avez perçu la façon dont le pays, la société, se préparait, ou peu, à l'événement?
C'est intéressant parce que le pays ne se préparait pas, en fait. Les autorités ont même interdit qu'une commémoration ait lieu le 17 avril.
Pourquoi ?
Le régime n'a jamais célébré le 17 avril 1975. C'est un problème. Ça pose problème aux autorités, puisqu'il y a eu pendant très longtemps d'anciens Khmer Rouges qui étaient partie prenante de ce mouvement, qui étaient au pouvoir. Et donc il y a eu un refus de prendre en compte cette réalité. Et effectivement, c'est à la différence d'autres pays comme le Rwanda, par exemple. Il n'y a pas de moment clé, il n'y a pas de date clé à laquelle on va commémorer ce qui s'est passé au Cambodge. On a plusieurs dates. Il y a la date la plus évidente, je dirais peut-être, pour les bouddhiques en tout cas, les bouddhistes en tout cas, c'est le 2 novembre, la fête des morts, des ancêtres, le culte des errants. On a la date du 17 avril, qui est plutôt commémorée par la diaspora à l'étranger, même si c'est une date auquel pensent tous les Cambodgiens. à l'étranger, mais également dans le pays. On a la date du 7 janvier. Donc la chute qui correspond à la chute du régime des Khmers Rouges en 79, mais qui est une date qui pose problème, hein, puisque effectivement, certes, les Khmers Rouges sont chassés du pouvoir par l'armée vietnamienne, mais ça correspond aussi, pour certains Cambodgiens en tout cas, à la date, le début de la colonisation des Vietnamiens qui vont rester 10 ans dans le pays.
Alors,
donc le 7 janvier, je finis juste là-dessus, le 7 janvier est une date problématique. Et la dernière date, la date du 20 mai, qui est la date du souvenir aujourd'hui, mais qui a posé problème pendant très longtemps, c'était longtemps appelé la date, le jour de la haine, qui a été mise en place par les Vietnamiens justement en 85, pour critiquer, pour vilipender le régime des Khmers Rouges, qui a été transformé donc en journée du souvenir aujourd'hui. Mais vous voyez bien que ces quatre dates ne suscitent pas l'unanimité des Cambodgiens en tout cas.
Pas d'unanimité, pas de commémoration officielle. Mmh. Et cette souffrance qui affleure néanmoins, qui est là et que vous donnez à entendre dans votre reportage à Battambang, dont on parlait à l'instant, ce centre de sécurité avec toutes les guillemets qu'il faut, qui était une pagode, la pagode Ek Phnom. Vous rencontrez Arn Chan Pond, il avait 9 ans lorsqu'il a été arrêté et transféré dans ce centre. Et son histoire à lui rappelle que les enfants n'étaient pas épargnés dans les massacres.
Tout à fait, les enfants n'étaient pas épargnés. Le projet des Khmers Rouges, c'est une utopie meurtrière, radicale, totalitaire, qui vise à séparer les familles. On éclate la cellule familiale qui ne doit plus exister. On sépare donc les générations, on sépare les sexes, puisque les couples sont souvent séparés, les femmes sont avec les femmes, les hommes avec les hommes. Et lui s'est retrouvé tout seul, il était issu d'une famille d'artistes. Donc tout le prédisposait, entre guillemets, à se faire tuer, à se faire écraser, comme disaient les Khmers Rouges, puisqu'il représentait ce que les Khmers Rouges exécraient, c'est-à-dire la culture, la bourgeoisie, l'esprit. Et il était donc, lui, effectivement, en plus, les doigts fins, la peau blanche, donc il était suspecté d'être d'origine un peu étrangère, parce qu'il avait la peau blanche, les doigts fins, c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas la terre, il n'appartenait pas à ce fameux peuple ancien que mettaient en valeur les Khmers Rouges en se référant au passé en coréen, etc. Donc il aurait dû effectivement lui se faire complètement supprimer. Et il s'est battu pendant 4 ans pour survivre dans cette pagode que vous mentionnez, qui est une pagode où il y a aujourd'hui plus aucune trace de ce qui s'est passé. J'ai rencontré des Cambodgiens qui étaient en vacances l'été dernier dans cette pagode qu'on visitait, qui m'ont dit « Ah, c'est une très belle pagode. » En plus, derrière, il y a un vieux temple en coréen du 11e siècle. Donc il y a beaucoup de touristes qui passent là.
Il n'y a aucune plaque, il n'y a aucun signalement, signalétique, pour rappeler ici sont morts environ 10 000 personnes.
Voilà,
ici,
c'est environ, vous avez raison.
Parce qu'on ne connaît pas les chiffres exacts. Et donc si quelqu'un ne nous guide pas dans ce lieu, on n'a pas idée de ce qui s'est passé, ce qui s'y est passé.
J'ai été content, puisque d'une certaine manière, en quelque sorte, de retourner. On est retourné avec Arn Chan Pond sur les lieux où il a passé 3 ans et demi. Je voulais effectivement qu'il revienne, lui-même était plutôt volontaire.
Qu'est-ce que ça représentait, pardon, pour lui, le fait de témoigner? Comment est-ce que l'expression du récit qu'il vous fait, qu'est-ce que ça provoque en lui à ce moment-là? Est-ce que c'est une parole qui se libère facilement, difficilement?
C'est une parole qui se libère assez rapidement, et puis en même temps c'est accompagné de pleurs, évidemment, comme souvent chez ces survivants, de douleurs, il avait mal à la tête par exemple, et puis il se promène dans les lieux et il voit, il s'arrête et il voit par exemple l'entrée de la pagode, et il dit, là je me rappelle d'un soldat américain qui avait été tué par les Khmers Rouges l'avaient forcé à fumer des cigarettes américaines parce qu'il appartenait à l'ancienne armée de la République de Lhondol, qui était un régime pro-américain. Donc il le force à fumer des cigarettes, ils le battent. Et Arn raconte ça. Il raconte également les gens qui ont été tués, parce qu'on tuait très peu par balle avec les Khmers Rouges. Pour faire des économies, les Khmers Rouges estimaient que leurs victimes ne méritaient pas la mort par balle. Donc ils les tuaient avec des manches de pioche, etc. Et après, il les égorgeait, il les éventrait. Il raconte tout ça. Encore aujourd'hui, c'est très frais. Il raconte des scènes et il se promène tout autour donc de ce fameux temple que j'évoquais tout de suite, du 11e siècle. Et les images comme ça ressurgissent à mesure, au moment où il marche, quoi. C'est assez perturbant.
Alors, il y a beaucoup de lieux qui souffrent d'une absence de mémoire, comme cette pagode. Il y a aussi des mémoriaux en dehors de la capitale Phnom Penh, par exemple celui de Samrom Khnond, dit le puits des ombres. C'était aussi un centre de sécurité Ici aussi, on estime que 10 000 personnes ont été assassinées. Vous y rencontrez une ancienne détenue, Chepsine. Elle était aussi adolescente à l'époque. Elle a été forcée de creuser des fosses et des charniers. Et pour elle, peut-être même question, que représente le fait de témoigner aujourd'hui ?
Alors elle a, comme Arne, elle a pris l'habitude effectivement de témoigner, même si ça lui coûte, pour pouvoir raconter effectivement ce qu'elle a vu pendant un mois et demi. Elle avait tout simplement en fait volé du riz parce qu'elle avait faim. C'est pour ça qu'elle a été jetée dans cette prison pendant un mois et demi. Elle a assisté, elle avait je crois de mémoire 13 ans à l'époque, elle a assisté à des choses complètement dingues pour une adolescente, enfin une jeune adolescente. Et pour elle, c'est il y a une exigence de raconter et de dire ce qu'elle a vécu. C'est d'autant plus intéressant que l'un et l'autre, et Arne et elle, ont le souhait de parler, de transmettre ça aux jeunes générations. Et dans le même temps, c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas fondé de famille. Je pense que ça dit des choses aussi, je pense, sur la puissance du traumatisme et le legs de ce qui reste 50 ans après, quoi.
Elle a vécu trop de douleurs pour fonder une famille, c'est ce qu'elle vous confie fait, oui. dans le reportage. Chepsine, elle a aussi confié son histoire à une ONG qui s'appelle Youth for Peace. Quel est le rôle des ONG, des associations, dans ce travail de mémoire, de documentation qui reste encore très partiel, mais qui se fait tout de même peu à peu, et visiblement avec un rôle très important de ces ONG cambodgiennes?
Oui, on aurait tort de penser qu'effectivement c'est l'amnésie totale et l'omerta totale sur ces massacres. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Je pense notamment évidemment au DCCAM de Yuk Chang, le centre Bopana qui a été fondé par Itipan. Et cette ONG, qui est une ONG qui a une vingtaine d'années, qui est un peu plus récente, et qui fait un travail remarquable de documentation. Ils vont rechercher des victimes, les faire témoigner, les enregistrer, pour vraiment documenter ce qui s'est passé. Et aller, c'est ça qui est intéressant, aller dans des lieux où il n'y a pas eu beaucoup de travail de mémoire ou de travail d'enquête. Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Le tribunal Khmer Rouge a fait beaucoup de travail d'enquête pour instruire les trois dossiers qui ont été des trois principaux leaders qui ont été jugés à Phnom Penh. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire sur le terrain. Et cette ONG a fait beaucoup de choses, à Knong Sarong, à Batabang, mais également, je pense, à Kreng Tan Chan, dans le sud du pays, où ils ont à la fois donc documenté, écrit des petits livrets, fait un travail de terrain et ouvert à côté de ces mémoriaux des centres communautaires où ils accueillent des ateliers, ils accueillent des jeunes, pas forcément d'ailleurs pour faire du travail de mémoire, mais pour que ça soit un lieu de vie. Dans ces centres, ils installent par exemple des ordinateurs et les jeunes viennent envoyer des mails, se connecter, surfer, jouer même. C'est un peu déconnecté de ce qui se passe, de ce qui s'est passé il y a 50 ans, mais ça permet de faire vivre les lieux. Et ça, effectivement, permet d'ouvrir un peu la connaissance pour sortir des sentiers battus, puisque vous mentionnez en introduction de tout à l'heure le fait que S21, le centre de torture à Phnom Penh, est très connu. Chung Hek, qui était le centre d'extermination, là où les gens passaient de S21 et faisaient tuer dans le sud de la capitale, est également très visité, très connu. Mais il y a une méconnaissance totale de nombreux sites dans le pays qui sont effectivement pas documentés, pas enquêtés, pas visités même. Et pourtant, il y a parfois dans certains lieux des 10 à 15 000 morts, enfin c'est des choses qui sont complètement folles.
Et des témoins de l'époque qui n'ont encore jamais pris la parole, et vous en rencontrez un. Il s'agissait d'un coiffeur qui aujourd'hui a 90 ans et qui était mobilisé par les Khmer Rouges pour exercer ce travail de coiffeur. Il n'était pas soumis aux conditions de détention, il habitait à proximité. Vous le rencontrez et c'est la première fois qu'il vous livre le récit de ce qu'il a vu. Comment est-ce que vous comprenez le fait qu'il... Là, maintenant, en 2025, il se met à parler.
Oui, lui, il est vraiment à côté du centre d'emprisonnement, enfin de Kreng Tan Chan, dans le sud du pays, pas très loin de Takeo. Et il a 90 ans, et la jeune membre de l'ONG qu'on mentionnait tout à l'heure, Youth for Peace, me dit, tiens, il y a quelqu'un à côté qui, potentiellement, pourrait peut-être raconter des choses, parce qu'il est âgé, il a peut-être vu des choses. Et on va le voir, il est à 500 mètres à peu près du mémorial. Et effectivement, il a été le coiffeur des Khmer Rouges. Et il raconte pour la première fois. Même elle, la responsable de l'ONG, est surprise. Elle dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas raconté tout ça? Et il raconte comment il a été recruté parce qu'il coupait bien les cheveux par les Khmer Rouges. Et qu'il a été, effectivement, pendant 3 ans et demi, le coiffeur des Khmer Rouges, enfin des soldats Khmer Rouges. Et qu'il était obligé de leur couper les cheveux et d'assister à tout ce qui se passait. Et il vit aujourd'hui avec un sentiment de culpabilité qui est incroyable. Et je pense que... Et d'ailleurs, je pense que l'interprète, à un moment, lui a demandé, elle a devancé mes questions, elle lui a dit, mais Vous parlez, en fait, c'est pour vous mettre en paix avec votre mémoire, parce que sans vouloir vous offenser, vous avez 90 ans, vous êtes plus proche de la mort que du début de votre vie. Et il y a de ça chez lui, il y a effectivement cette volonté de témoigner. Et puis alors, il y a un moment aussi qui a un peu fixé ce moment de reportage dans mon esprit. On entend un moment où on est en train de faire l'interview, un grand cri, une lamentation d'une femme qui sort de la maison, vraiment en criant, en hurlant et en regardant son écran de téléphone. Au départ, je me dis, bon, c'est quelqu'un qui doit avoir appris une douleur, enfin un événement triste, etc. Et en fait, non, on se rend compte que c'est une personne qui est un problème, certainement des problèmes mentaux, psychiatriques, et qui hurle comme ça autour de l'endroit où, à côté du mémorial, à côté de l'endroit où, c'est en plein air, hein, à côté d'un petit abri. Et elle hurle comme ça, et c'est la petite fille de ce coiffeur. Et on se dit qu'il y a un traumatisme, il y a une sorte de traumatisme qui continue, qui perdure, quoi. Et lui-même n'avait quasiment pas parlé de ce qu'il a vécu, ce coiffeur, donc, à ses enfants. Donc c'est un moment qui est effectivement un moment très perturbant, quoi.
Arnaud Vollerin, vous, dans votre reportage, vous teniez aussi à rencontrer des anciens membres des Khmer Rouges. Il y a par exemple Noam Niet, qui lui s'était engagé lorsqu'il avait 15 ans dans les combattants. Alors lui, il dit avoir combattu dans la forêt, n'avoir pas tué de civils. Mais au-delà de son action personnelle, ce qui est frappant dans son discours, c'est qu'il n'y a ni repentance, ni regret, et qu'il y a aussi beaucoup de déni.
Oui, il y a beaucoup de déni. Enfin, c'est intéressant parce que lui, il est dans l'ouest du pays. Et il le dit qu'il a 15 ans quand il rejoint l'armée Khmer Rouge parce qu'il tire bien, parce qu'il se débrouille bien, etc. Et assez rapidement, il nous dit « mais moi, je me battais contre les Vietnamiens ». Et le problème, c'est que les Vietnamiens sont arrivés quand même très tard dans l'ouest du pays, plutôt au début 78. Donc il y a eu presque 3 ans pendant lesquels il ne s'est pas battu contre les Vietnamiens. Il y a fort à croire qu'il était effectivement, il a eu une action auprès des civils. Et il parle beaucoup de guerre, justement. Et on lui dit « mais il n'y avait pas de guerre avant que les Vietnamiens arrivent. Vous aviez face à vous des civils qui n'étaient pas armés, face à une machine très redoutable des Khmer Rouges, qui était une machine de mort qui était très efficace. » Et il nous dit « non, mais moi, j'ai pas tué de civils, d'une part, et ce n'est qu'après, en 79, que je me suis rendu compte de l'ampleur des massacres. » Et on a encore aujourd'hui, effectivement, alors, c'est pas de la négation totale de ce qui s'est passé, mais on relativise. C'est... faut voir ce qui a été fait. Il y a eu effectivement cette guerre. On s'est battu. Fallait défendre le pays, l'intégrité du pays, la souveraineté. Et puis surtout très rapidement, on met en place le discours qui est porté d'ailleurs par les autorités de ce qu'ils ont appelé la win-win policy, la politique gagnant-gagnant, c'est-à-dire de réconciliation. Comme ils disent aujourd'hui, il y a plus de couleurs chez les Khmers. Il y a plus de Khmer rouge, de Khmer ceci ou Khmer cela. Et on est tous Khmers. Et grosso modo, c'est une manière d'enterrer un peu ce qui s'est passé au nom de la réconciliation. C'est une politique qui a été lancée dans les années 90 pour effectivement réinsérer les Khmer Rouges. Il y en avait beaucoup dans les années 90 encore, réintégrer ces Khmer Rouges dans le tissu social, collectif, la société, la politique locale, enfin en tout cas cambodgien. Et donc il y a cette politique encore de relativiser les faits au nom de la réconciliation, au nom de cette volonté de tourner la page du passé et surtout de pas trop remuer un peu ce qui s'est passé, puisque l'impunité est là et que 50 ans après, on sait très bien que les procès, il n'y aura plus de procès.
C'est la question que j'allais vous poser. Trois personnes, vous l'avez rappelé, trois dignitaires ont été jugés en tout et pour tout depuis 50 ans. Est-ce que les victimes, les survivants, peuvent espérer que d'autres procès soient instruits dans les années à venir? Non.
Non, la volonté nationale n'existe pas. Le tribunal international, qui était un tribunal hybride, à la fois composé de magistrats cambodgiens et de magistrats internationaux, a fermé ses portes en 2022. Hun Sen, l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui le président du Sénat, a tout fait pour effectivement arrêter de nouvelles enquêtes, de nouvelles poursuites. Donc il n'y aura pas de procès. Et évidemment, plus les années passent, on est 50 ans après le début du massacre, plus il est difficile de retrouver des gens et de juger. Et il n'y a surtout aucune volonté internationale. Donc on n'aura pas de procès, il y a une impunité totale. Et vu ce qu'a été cette machine de mort Khmer Rouge, on sait qu'il y a eu certainement des dizaines de milliers de gens qui ont tué.
Et face à cette mémoire qui s'efface, dont les traces s'effacent inexorablement, les témoignages que vous recueillez, que vous rapportez dans votre long reportage en sont d'autant plus précieux. Merci beaucoup Arnaud Vollerin d'être venu dans le retour de terrain sur les traces du génocide Khmer Rouge entre mémoire douloureuse et fantôme du passé, c'est à lire sur Libération. Merci d'être venu.